affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme vous le savez, l'école occupe dans l'imaginaire français une place toute particulière. Dans notre pays, plus qu'ailleurs, elle nourrit des débats passionnés, dans lesquels l'école d'autrefois est de plus en plus souvent convoquée. En effet, alors que ces débats se polarisaient auparavant souvent entre école libre et école publique, ils opposent désormais aussi partisans et opposants de l'école d'avant. Certains la magnifient, d'autres la déprécient, modèle ou repoussoir, l'école d'autrefois en sort toutefois souvent caricaturée, comme calcifiée, pétrifiée dans une gangue idéologique qui ne lui rend pas justice. Pour la rétablir dans sa vérité, rien de tel dès lors que de se plonger dans les souvenirs de ceux qui l'ont connue. C'est le cas de l'historien Philippe Levillain, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui vient justement de publier un livre de souvenirs consacré à ses années de lycée, passées à Montaigne, au lycée Montaigne de Bordeaux dans les années 50. Publié aux éditions Sud-Ouest, il apporte un regard nécessairement subjectif, mais aussi plus vrai et plus nuancé sur l'école d'autrefois et au-delà de l'école, sur l'éducation d'autrefois. Ce livre s'appelle « Tableau d'honneur, tout un programme ». Monsieur Levillain, merci d'être avec nous. Vous allez donc nous emmener dans cette France des années 50 et dans cette école des années 50. Ma première question porte sur les nécessités qui vous ont poussé à écrire ce livre, car on sent que c'est un livre de nécessité.
C'est une nécessité parce que c'est produit un hasard qui m'a rendu nécessaire un discours un peu élaboré, différent des autres discours. Vous savez qu'à un certain âge, je dirais malheureusement parce qu'on a un certain âge, on prononce beaucoup de discours, soit qu'on reçoive une distinction, soit qu'on soit promu dans telle ou telle situation, et qu'on invite également, parce qu'on est on a un certain âge, on invite les mêmes, ses amis, ses relations proches, quelquefois ses camarades, et que les gens, finalement, visiblement se lassent, sont très très généreux de leur temps, mais savent qu'ils vont entendre la même histoire. Alors, il s'est trouvé qu'à l'occasion d'une remise de décoration, j'ai pensé que je ne pouvais pas, pour la troisième, quatrième fois, en l'espace de 8 ans, remettre le couvert sur ma carrière, ma vie, mon éducation, la chance que j'avais eue autour du chiffre 5 qui m'a poursuivi toute ma vie pour mon bonheur, et que par honneur vis-à-vis de la personne qui m'a remis cette décoration et par honneur vis-à-vis de mes auditeurs, j'ai décidé de réfléchir sur l'honneur. Et pourquoi ? Parce que précisément ma première maturité intellectuelle et affective dans l'ordre de l'émulation a été ce satané tableau d'honneur dont j'ignorais tout quand je suis rentré à l'âge de 5 ans, j'avais à peine 10 ans, je venais d'avoir 10 ans, en 6e, c'est-à-dire à la première classe de secondaire, au lycée Michel de Montaigne à Bordeaux, où je venais d'emménager avec mes parents parce que mon père avait été nommé à Bordeaux. Donc J'étais à l'époque, donc en 1950, désarçonné et en même temps heureux de rentrer en sixième parce que, il faut le rappeler, dans ces années-là, il y avait un examen d'entrée en sixième et que c'était un véritable pont aux ânes qui comportait trois épreuves, l'écriture, donc une dictée, des mathématiques, naturellement, et une troisième épreuve que j'ai oubliée, mais qui était portée au nombre de trois. Et on attendait le résultat avec fièvre. Il se trouve que par un très grand hasard, le hasard de ma vie, qui encore, comme toutes les vies, un certain nombre assez significatif, je l'ai passé au lycée Carnot à Paris, parce que mes parents habitaient le 18e, et que le proviseur du lycée Montaigne de Bordeaux, Henri Fauré, dont nous reparlerons, a fini sa carrière comme proviseur du lycée Carnot. Alors je trouve que ces mouvements, ces assonances, ces harmonies sont assez spectaculaires. Et comme je suis sensible à tout ce qui est un peu fétichiste, signes, significations, ça m'a aussi poussé à rédiger ce texte, à l'écrire surtout. Enfin, l'aumônier du lycée Michel de Montaigne, qui s'appelait l'abbé Gouillon, je viens recevoir une lettre d'un de mes l'aîné de 1935 qui m'explique qu'il a eu l'abbé Gouillon lui aussi, lequel est devenu évêque de Bayonne et archevêque de Rennes, et que j'ai retrouvé, ayant été plus tard, à la dernière session de Vatican II, comme archevêque et cardinal. Donc il y a une espèce de suivi de personnes, c'est ça qui est dans ma vie, à partir de 1950, j'allais dire très vulgairement, que j'ai trimballé dans ma vie, mais qui ont été également des amis ou des formateurs. Voilà.
Alors c'est hasard de la vie pourrait presque laisser croire à une forme de prédestination, comme si votre destin déjà inscrit dans le ciel, l'univers dans lequel vous mettez les pieds, pense exactement le contraire, c'est-à-dire que la vie se construit par le travail, par l'étude, et on s'arrache à sa condition et on court vers le savoir avec des efforts.
Alors ça, c'est je dirais le charme au sens propre de cette sixième dans laquelle je rentre, que la sixième nouvelle B, ça distingue la nouvelle A et la nouvelle B, se distinguaient simplement par la langue, allemand ou anglais. Bon, l'allemand était très peu fréquenté, pour des raisons que j'explique, qu'on était encore dans le souvenir de la guerre. C'était très hardi du point de vue scientifique, du point de vue culturel, du point de vue de l'histoire, de faire apprendre l'allemand à ses enfants. Donc, mon père, je dois dire, avait une grande passion pour les Allemands, et pour cause, qui avait fait à sa façon la résistance. Et donc, je dirais même que l'Allemagne était considérée encore comme une puissance ennemie, quoique abattue. Alors, dans cette classe étonnante, où beaucoup de gens ont émergé, on vous apprenait à travailler comme on respire, avec une respiration saccadée comme au sport, c'est-à-dire maîtrisée, mais... La découverte pour un enfant de 10 ans des cours séparés heure par heure est déjà un choc, alors qu'on a été habitué à voir des maîtres d'école. Je me souviens, en 10e, il y en avait un qui s'appelait Monsieur Flandin, on appelait Papa Gâteau. On était encore entretenu dans cette idée qu'il fallait nous coccolare, comme on dit en italien. C'est-à-dire qu'on était, j'étais dans une école libre, il faut dire, enfin bon. Mais ça, mon père ne voulait absolument pas que j'aie l'enseignement des bons pères, qu'il avait lui-même reçu, mais qu'il considérait comme pernicieux pour l'âme et pour l'esprit. Donc il était assez... anticlérical, mais laïque, je dirais, à sa façon. Et donc, il m'a mis là, plutôt dans un collège religieux, parce qu'il voulait recevoir un enseignement laïque. Bon. Je le remercie d'ailleurs de cette position qui m'a donné des ailes par la suite. Et la séparation des cours, alors, pour moi, le terrible a été que j'avais un nom, le vilain, qui n'allait pas du tout avec Cordès, Pouzoudou, Landès, tout ce que vous voulez. Un nom, j'avais pas de nom aquitain, j'avais un nom normand. Donc, pardonnez-moi. Et donc,
ça crée une certaine angoisse à la rentrée des classes.
Donc, j'ai suscité, c'est le premier chapitre, à Ourvary, quand le professeur, M. Fort-Lacroix, qui avait l'air pour moi d'un vieux monsieur, qui pour moi, il devait avoir, je pense, 42, 43, mais il était habillé qu'à par-dessus, un gilet de laine, de grosses chaussures, etc. Il était toujours habillé comme un professeur, presque comme, dirait, comme devaient être les professeurs au temps des hussards noirs, me semble-t-il. Bon. Et appelé le vilain Philippe. Alors là, la classe était dans un émoi de joie absolument extraordinaire. On s'est levé, on dit ouh, 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 etc. Et ça a été ma première épreuve au baptême du feu de la vie publique. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'étais non pas stigmatisé, mais désigné. Pas stigmatisé, parce que, comme je le raconte, le hasard de la vie a fait que j'étais assis à côté d'un jeune métis, dont le père était le surveillant des classes terminales, donc de la grande cour, qui était la cour avant du Cémontin, qui existe toujours. Et il savait, lui, ce genre de choses. Et il m'a dit, donc, voilà. Excusez-moi, pardonnez-moi. Il m'a dit, assieds-toi. Et quoique avant, il m'a dit, comment t'appelles-tu? Il m'a dit, je m'appelle Justin Feder. Et toi? Alors, je lui ai dit, Philippe Levinas. Alors, il a hurlé de rire, mais je riais avec lui parce que c'était un rire. Il faut connaître ces rires créoles, ou si vous voulez, ou des îles, ces rires insulaires. Ils sont une très grande bienveillance. Ils sont pas du tout sarcastiques, sardoniques. C'est un rire d'accueil. Et donc, ça compensait l'espèce d'émeute qu'il y avait à l'idée qu'il y avait un gus qui s'appelait le vilain, qui était tout petit. J'étais le plus petit de la classe et le plus jeune aussi. Voilà.
L'attitude des professeurs à cette occasion se révèle également habile, délicate, bienveillante.
Alors, c'était très habile parce que, au premier temps, ils ne prononçaient pas mon nom. Ça m'a frappé leur délicatesse. Ça m'a frappé, je veux dire, rétrospectivement, pour être honnête, parce qu'on pourrait aussi parler de la constitution du souvenir, ce que c'est, ce qu'elle représente. Et jamais on ne m'appelait au début le vilain, on m'appelait le petit parisien, le petit blond assis à côté d'Eder, de Feder plutôt, le petit à la cravate, enfin, pas de cravate, le petit au pullover noir, etc. Bon. Et ils arrivaient, et alors, le vilain Philippe, j'ai dit que je crois maintenant qu'il y avait tout de même une assonance sur Philippe, le vilain Philippe. Je dis, ça peut être le rappeler maréchal Nouveau, là, je ne sais pas, j'extrapole, mais enfin, on évitait ce Levinas Philippe, parce qu'il y avait quand même à Bordeaux, il y avait quand même une certaine résonance par rapport au régime de Vichy qui...
Oui, Philippe né en 1940, c'est parce qu'il est plus confortable en 1950.
Voilà, vous y êtes exactement, mais tout ça, j'ai reconstitué un peu après, mais j'ai senti, j'ai pu analyser l'embarras. Et puis alors, c'est devenu Levinas tout court, avec le temps. Mais ce que j'aurais peut-être rappelé, parce que ce n'est pas un livre nostalgique, c'est un livre qui exprime ce qu'a été l'enseignement au lendemain de la guerre et qui finalement explique le passage ultérieur et après peut-être les dérives, mais c'est la présence vive des enseignants comme des parents. C'était d'autres parents. C'est pour ça que je le dis souvent, ils n'aimaient pas que les parents se mêlent de la vie scolaire et peut-être même de la vie intérieure et de la vie adolescente de leurs élèves. Mon père était un interventionniste grand poil. C'est-à-dire qu'il demandait quand même... Il y avait un cahier de texte et les notes arrivaient, je dirais, par rafale, je dirais que très tôt. Pour moi, c'était stupéfiant de voir qu'au bout de 15 jours, déjà, on me donnait des notes. Jamais j'avais connu ça. Je connaissais des lettres, éventuellement, A+, B-, jamais des notes. Bon, c'est crucifiant les notes, hein, surtout quand on sait que la barre, c'est 20. Bon, alors sur cette échelle de Jacob sur laquelle on montait, on descendait, la première fois, j'ai eu un choc, et mon père était interventionniste, c'est-à-dire qu'il imputait au professeur aussi bien, ça c'est pour des parents d'élèves qui sont trop exigeants, j'en ai connu après à l'université aussi, c'est-à-dire qu'il leur attribuait un défaut d'enseignement qui expliquait mes lacunes. Et ça, ils l'ont toujours fait comprendre que c'était pas possible, que c'était à eux de vérifier comment marchait la machine Levinas, ou l'esprit Levinas, comme vous voulez, et comment était mon comportement. Parce qu'on était très sages, il y avait très peu de chahuts, très très peu. Les rares chahuts qu'il y a eu, il y en a eu à cause de moi, je le raconterai tout à l'heure si vous voulez, mais que j'ai d'ailleurs provoqué, qui était mon inclusion. Ce chahut m'a inclus dans la communauté.
Oui, c'est un rite initiatique de cette petite communauté d'enfants.
Exactement, oui. Alors j'étais inclus, je vous racontais, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé que ça aussi, c'est l'exemple même de ce que les professeurs n'aimaient pas, que les parents se mêlassent de la vie scolaire et des résultats scolaires de leurs élèves, parce qu'il y avait une rédaction à faire, libre, raconter un monument de votre choix. Comme j'étais parisien, j'ai dit que j'allais raconter la Tour Eiffel, donc où j'étais d'ailleurs jamais monté, comme tous les bons parisiens de l'époque. Et je l'ai dépeint d'une façon assez pâle, en particulier avec une Tour Eiffel en chocolat, parce que j'ai voulu avoir ça dans une pâtisserie. Et ma mère, qui était cultivée, qui avait son brevet supérieur, qui à l'époque était un diplôme important, bon, qui était, quand on suivait le premier supérieur, l'équivalent du bac, quand on suivait le secondaire, m'a dit, mais plus elle s'élève, plus elle s'amenuise. J'ai trouvé ça formidable. Donc je l'ai écrit tout de go, et j'étais très très content de moi. Et Fort-Lacroix, quand il a rendu les copies, il m'a donné 10, sans annotation, il m'a dit, vous remercierez, vous complimenterez monsieur votre père. Bon. Et j'ai un voisin qui a entendu, il a dit, le vilain fait faire ses devoirs par ses parents. Et alors, à ce moment-là, il y a eu un mouvement, et je lui ai dit, j'ai dit à Fort-Lacroix, non, par ma mère, pas par mon père, par ma mère. Alors, il m'a dit, Fort-Lacroix n'a pas répondu, et alors, il fait faire ses devoirs par sa mère. Je lui ai dit, fais-le faire par la tienne si elle en est capable. Et alors là, l'émeute a éclaté. Alors, c'était extraordinaire, il y a eu quelques chahuts. La circulation, c'est-à-dire par billet, pendant le cours, les professeurs faisaient sans pas voir. On circulait le rassemblement pour l'émeute. Et à la sortie, ça a été effrayant, un chahut dont et monté le cri. Ça, je m'en souviens très bien. Le village cherche la bagarre. Et à ce moment-là, Fort-Lacroix a dit, vous réglerez vos comptes à la récréation. C'est formidable, cette fois.
Faut régler vos comptes. On sent que ces professeurs, contrairement à l'image que l'on peut se faire, sont plus des gestionnaires de flux et d'émotions que des gens qui les bloquent.
Exactement, exactement. Tout était interprété dans un sens positif. Et alors le discours que fait Fort-Lacroix à Noël, enfin, je vais raconter quand même la distribution du tableau d'honneur, qui était foudroyante pour moi. Le discours qu'il fait en disant « Vous avez tous progressé, vous avez tous arrivé, etc. » En gros, vous êtes tous capables, ce qui était vraiment... Personne n'était jamais découragé, jamais, 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 jamais stigmatisé non plus.
Alors justement, vous évoquiez les territoires respectifs des professeurs et des parents. Je vous trouve plus sévère avec le monde des parents qu'avec celui des professeurs. On sent que là, pour le coup, peut-être parce qu'ils sont plus émotionnellement engagés à l'égard de leurs enfants, l'exigence est écrasante du côté des familles.
Alors, de toutes les familles, l'exigence est écrasante de toutes les familles. Alors, chez moi, Il y avait un modèle unique. Mon père a fait l'école des beaux-arts, c'était un artiste. Il a réussi plus tard, mais je veux dire que, parce qu'à l'époque, le marché était fluide. Par conséquent, son talent s'est exprimé dans d'autres branches, notamment industrielles. Bon, parce qu'il est très bon en mathématiques. Bon, mais il n'y avait pas de diplôme à l'époque qui sanctionnait obligatoirement le talent et qui se mettait sur des rails. Mais déjà, à mon époque, c'était le cas. Hein. Bon, donc chez moi, il y avait une obsession, c'était Polytechnique, Polytechnique Mines. Parce que j'avais un oncle qui avait raté Polytechnique, parce que j'avais un cousin qui avait réussi Polytechnique, et c'était le...
C'était l'étalon de toute chose.
De toute chose. Donc je connaissais que ça, donc... J'ignorais, je connaissais la rue Descartes, je savais que c'était X-Mines, etc. Et on passait tout à mon cousin qui était assez comment dirais-je, désinvolte vis-à-vis de ma cousine lointaine. Et mon père disait, oui, mais il a fait Polytechnique X-Mines. Et ça me remplissait d'aise, parce que je me disais, il y a un talisman, il y a un diplôme magique qui permet de réussir dans la vie.
Et socialement, c'est pas tout à fait faux.
Hein. Surtout à l'époque. Et alors j'ai écrit Polytechnique, si vous voulez faire plus tard, j'ai écrit Polytechnicien froidement. Et mes professeurs n'ont pas relevé, c'est ça, ils n'ont pas, ni par l'ironie, ni même par un sourire, ils ont pris ça froidement comme étant un but que j'attribuais à un gamin de 9 ans qui ne savait pas très bien où il allait, 10 ans qui ne savait pas très bien où il allait. Bon. Et alors mon père voulait absolument que je réussisse, d'où, quand j'ai annoncé le tableau d'honneur, mon père m'a dit aussi, mais tu vas l'avoir. Alors, j'étais très loin de pouvoir l'avoir, parce que je démarrais dans une honnête médiocrité, dans le milieu. J'étais, en gros, entre 8 et 11, d'où je suis arrivé. Et je disais non. Et mon père disait oui. Alors est arrivée cette foudroyante scène que je raconte, qui est la lecture du tableau d'honneur, qui était d'ailleurs très angoissante pour mes camarades et moi, parce que c'était vraiment égrené comme un chapelet. Hein, je veux dire, comme toute ma vie, enfin, jusqu'à l'âge... Jusqu'à ce que j'ai passé l'agrégation, réussi l'agrégation, je n'ai assisté qu'à des énumérations de mérite. Il fallait avoir le cœur solide, parce que j'en ai eu une autre à l'agrégation. Quand on était dans le début, on craignait. Hein, parce que, et c'était très républicain. C'était le classement, qui était quand même quelque chose d'assez rude, qui est resté rude encore pendant très très longtemps.
Alors vous dites que néanmoins, par charité ou pour épargner quand même les élèves, on ne partait pas du meilleur jusqu'au moins bon, ou du moins bon jusqu'au meilleur, mais on donnait le classement au fil de l'ordre alphabétique des élèves.
Voilà. Alors ça,
c'est déjà une forme de délicatesse.
Les premiers classements, et le tableau d'honneur, non. Les tableaux d'honneur venaient par mérite. Alors donc, c'était assez angoissant. La dernière fois que j'ai vécu ça, je me souviens, à l'identique, c'est l'agrégation. C'est parce qu'on vous annonçait, messieurs, c'était pas un mix à l'époque, il y a 40 places. Donc, alors ça, c'est effrayant, parce que quand on arrive à 35e, on commence vraiment à avoir la sueur au front. Bon, bref, pour revenir au tableau d'honneur de 1950, donc premier trimestre 1950, c'était grené, et je savais que je ne l'aurais pas. Donc, je m'étais préparé, mais je suis rentré chez moi quand même tout penaud. On n'a pas beaucoup bronché chez moi à l'époque. Il y a les fêtes de Noël. On dit maintenant les fêtes de fin d'année. C'était vraiment les fêtes de Noël. Bon. Et il y avait tout un rituel de calme, de sagesse, de gaieté, etc. La messe en particulier, pour les chrétiens, pour les catholiques. Et alors, le coup portel m'a été porté quand mon père, qui était très ami d'un peintre un peu oublié, qui s'appelait Édouard Goër, est arrivé le soir de Manuel et a dit qu'il était très heureux parce qu'Édouard Goër venait recevoir la Légion d'honneur. Et à ce moment-là, il y a eu confusion dans mon esprit entre le tableau d'honneur du môme que j'étais, la Légion d'honneur qu'avait Édouard Goër, qui était un peintre, et on avait des tableaux d'Édouard Goër à la maison. Et alors là, j'en pouvais plus. Je crois que c'est là que mon père a eu le coup de génie de me lire le début de la Chartreuse de Parme, qui m'a changé de niveau à cause du langage qui m'a ébloui. Et alors, donc, comme vous savez, dans la première phrase de la Chartreuse de Parme, il y a un suspense extraordinaire. Enfin, il y a un mouvement d'épaule étonnant.
Bon. On sent que l'ensemble de la société baigne dans cette éthique de l'honneur. Hein.
Tout à
Ce
fait.
N'est pas que l'école. Non, c'est non. La famille, l'école,
oui.
Et même entre camarades, puisque vous racontez cette anecdote très significative, je trouve, c'est que le même Justin Feder, qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un des premiers de classe, il n'est pas obsédé par la réussite sociale, alors que vous passez le concours général, c'est ça ?
Oui, alors c'est plus tard, ça.
Oui, oui, bien plus tard, mais il vous dit, tu vas réussir, tu vas nous honorer.
Et le proviseur.
Voilà.
Et le proviseur, oui.
Donc c'est assez étonnant, c'est que même dans la relation horizontale entre élèves,
ah oui, oui.
tout le monde baigne dans cette oui. même matrice qui est très pesante, mais qui en même temps est stimulante.
Alors, je crois que c'est lié aussi au fait qu'on avait quand même le souvenir très proche de la guerre, de la défaite, de si je veux dire, de la rédemption, si je veux entre guillemets, hein, veux dire que, et que l'honneur était à fleur de peau, c'est vrai. Et alors, à l'école, l'honneur régnait. D'ailleurs, on disait souvent, tu me donnes ta parole d'honneur. Même plus tard, tu me donnes ta parole d'honneur. Et alors, oui, le concours général, c'était assez extraordinaire, puisque je me suis trouvé en français, latin, grec. Alors déjà, la sélection était remarquablement faite. Quand on fait venir les deux gamins que nous étions après la classe, et on nous dit que c'est un honneur pour nous d'être présentés au concours général, mais pas devant la classe, après la classe. Et comme c'est à 7h30 que se déroulent les épreuves, on nous attend par la grande porte au lycée où le proviseur est descendu de ses appartements. Alors là, par amitié, Justin Federer descend avec son père, mais ça c'est par amitié. Mais on nous accueille comme des rois. Comme des futurs princes destinés à être couronnés. Et c'est assez étonnant. Et on est traité comme des jeunes princes.
Comme si vous étiez anobli.
Comme si j'étais anobli. Alors, comme je vous dis, je rate parce que je ne comprends rien. La version grecque, je ne comprends rien du tout. C'était un niveau très, très élevé. Là, je pense que l'essai Monteil ne nous armait pas assez en termes d'apprentissage des langues anciennes, peut-être.
Peut-être parce que vous aviez le goût du grec, même si vous aviez raté le concours général, vous aviez le goût, vous dites que vous avez été en quelque sorte ébloui, que c'est un éblouissement, le grec et les langues anciennes
grec,
en général.
Le grec, j'ai eu beaucoup de chance avec ma famille, même si sévère soit-elle, et si, comme dirait Montefis, j'en ai bavé, mais parce que mon père m'a fait faire du grec avant, dans l'été qui allait conduire à la quatrième, entre la troisième et la quatrième. Donc je savais lire et écrire. Et ce qui m'a ébloui, c'est que j'avais une arme d'avance et que très rapidement, les professeurs ne sont pas du tout indignés et mes camarades ont été étonnés. Ça leur paraissait un comportement, ça, parce que mon père était un humaniste. Il y avait d'autres pères humanistes, mais qui étaient médecins, qui étaient avocats, etc., mais qui n'ont pas eu l'idée de préparer. Et donc, comme je savais alpha, beta, gamma, etc., c'était un par cœur, et que ça m'amusait, parce que c'est calligraphe, si je veux dire. Bon. J'étais acharné, je crois que c'est la première. J'ai découvert la charte de mon travail entre la troisième et la cinquième et la quatrième. Parce que j'étais acharné à travailler, je faisais que ça toute la journée. J'écrivais et je lisais. Et là, j'ai découvert que c'était la charte de mon travail, ce que j'ai fait avec passion. Alors, quand j'étais premier aux légers examens qu'on a passés au premier trimestre, j'étais grisé, vous comprenez, parce que j'avais le sentiment que la terre était à moi. Voilà.
Par ailleurs, ce n'était pas des options.
Ah, c'était pas des options, alors. Voilà. Non, c'est pas des options.
Ça vaut le coup d'être souligné, quand même.
Non, alors, ce qui est une option, c'est le passage dans la prime. Le passage à la prime, alors ça m'amuse que beaucoup de mes confrères à l'académie ont tous, enfin presque tous ont fait à prime, parce que c'était français, latin, grec, maths, physique, chimie, langue. Alors c'était un défi, et alors ce qui m'a étonné, c'est que, et c'est là encore l'alliance parents-professeurs, c'est que il y a eu une sorte de conciliabule que je n'avais compris entre mes parents et les professeurs pour me faire passer en prime. Je ne pense pas que mon père ait poussé à ce que je passe en prime, et je pense que les professeurs devaient se poser la question de savoir si, au fond, ils étaient capables de m'encadrer suffisamment pour que je passe en prime, parce que c'était vraiment très 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 dur la prime, très 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 dur, c'était un rythme, et surtout la multiplication des exercices à une cadence assez régulière. Ce qui m'a sauvé, c'est que c'est le moment où ma croissance biologique s'est épanouie. J'étais en seconde, j'avais 15 ans, je crois, oui, en tout cas moins de 16 ans, et j'étais bien dans ma peau. Et ce qui m'a sauvé, tout est symbolique dans la Bible, vous savez, c'est que je portais toujours des culottes courtes, que mon père ne voulait pas que j'ai des pantalons longs. Il estimait que, sauf à avoir ma première communion, il estimait que c'était le signe, une espèce d'entrée dans le monde adulte beaucoup trop précoce. Il me maintenait, j'ai eu des pantalons courts très longtemps, mais des culottes de golf ensuite, bon, comme beaucoup de mes camarades. Et c'est quand il m'a acheté des pantalons longs. Alors la même année, je suis passé en d'après, j'ai eu des pantalons longs et une veste. Alors là, je trouvais que j'étais devenu un adolescent.
Écoutez, c'est une des choses qui frappe dans le livre, c'est que c'est un monde, certes, normé, encadré, exigeant, mais où le troupeau entier des élèves voit sa vie jalonnée par une série de rites qui le font entrer dans la vie, qui le font grandir. On pourrait presque, je sais pas, faire analyser ces rites-là par Lévi-Strauss ou un autre ethnologue et porter un regard, oui, ethnologique. Alors,
j'étais tenté de le faire et je m'en suis écarté parce que j'ai voulu faire un livre narratif. Je voulais narrer la couleur, les sons, l'odeur de la craie presque, parce que le bruit des portes, l'arrivée de l'huissier, etc. Parce que je ne voulais justement pas mêler. Je ne fais qu'à un seul moment où j'explique pourquoi ce sont des classes qui sont à la charnière des classes populaires et des classes moyennes. Et c'était le but, parce que j'explique, selon les propos, selon les analyses d'ailleurs qui ont été tenues par mon collègue Antoine Prost, spécialiste d'histoire de l'éducation, que les classes nouvelles étaient faites précisément pour des parents qui n'avaient pas forcément tous les moyens. Mes parents avaient quand même les moyens, mais naturellement. Mais il y a certains pas, mais de façon à bénéficier de l'école gratuite. Avec l'option nouvelle A, nouvelle B, donc la voie longue vers le baccalauréat et les études supérieures. Et donc le dénivelé social était très léger, mais il existait. Le médecin, le fils de médecin n'était pas le même que celui de la couturière. Et ça allait ensemble. Bon. Mais ça se marquait quand même, parce que le fils de la couturière n'aimait pas le fils de médecin qui avait un bateau. Et lui n'allait pas en vacances. Mais moi, mes parents, qui étaient très très sensibles à l'attentive, ont loué, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'on aille sur le bassin d'Arcachon plutôt que de retourner mon père à Tefalte de la Bretagne, en Bretagne. Donc ils ont loué une maison à Andernos, qui était sur le bassin d'Arcachon, un endroit pourri, parce que la mer y arrive deux fois par jour. Bon, sinon, mon père appelait ça la pelouse. Mais on s'est intégré en quelque sorte par le fait qu'on s'est installé sur le bassin d'Arcachon, selon un rythme de vie très bordelais. Non. Donc, il y avait un léger dénivelé, mais que je perçois seulement maintenant. Je veux dire que l'époque était absolument indiscernable.
Oui, parce que moi, j'avais le sentiment, au contraire, en lisant le livre, que autant dans la société de la France des années 50, et j'imagine peut-être plus particulièrement à Bordeaux que dans d'autres villes, la stratification sociale est importante, mais qu'elle semble assez absente de la vie des écoliers.
Alors, elle est
Il y a d'autres hiérarchies, en revanche.
Oui, tout à fait. Bah, évidemment, parce qu'il y avait un garçon que je connais, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, qui était extrêmement brillant et dont les parents étaient infirmiers. Voilà. Mais bon, il était brillantissime. Bon. Mais c'est introspectivement. Bon. Alors, la classe était-elle unie par des... C'était quand même une compétition feutrée. Ce qui était, au fond, ce que les professeurs avaient réussi à créer, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on était bien d'être ensemble parce que les professeurs étaient heureux de nous avoir. Ils s'occupaient que de nous. Voilà. Et on était heureux d'être là. Il y avait de la compétition, il y avait des bagarres, il y avait des antagonismes. J'en cite quelques-uns qui sont sérieux. Mais on était heureux d'être ensemble. Et quand on s'est séparés au carrefour de la seconde, entre la troisième et la seconde, l'atmosphère n'était plus la même. Alors, ça s'est recréé. Mais le problème, c'est que les A' avaient un très grand mépris pour les A dans les cours communs. On considérait quand même que c'était des gens qui n'étaient pas capables de faire des mathématiques, qui faisaient que des humanités. C'était très léger, encore une fois. Mais bon, ça, le A' était quelqu'un qui était capable de résoudre des équations très compliquées, comme les C. Les A faisaient des mathématiques, étaient pour les bébés, pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Bon. C'est très léger, mais c'était. Rétrospectivement, je rencontrais comme ça, voilà.
Vous faites bien de le préciser, parce que je voulais presque s'entrouvrir une sorte de paradis où il n'y a pas d'un côté les littéraires et de l'autre les matheux, mais en fait, c'était la spécificité de votre classe.
Oui, il y avait deux A', hein, je veux dire. C'était. Alors, il y avait des cours communs avec les A. Les cours de langue, certains cours de français, etc. Le cours de français où il y a la scène de récitation avec Philippe Martin Malissert était un cours commun à A'. Par conséquent, la classe gonflait d'une dizaine de personnes.
Pour revenir à cette atmosphère qui semble quand même assez protégée, notamment protégée de l'influence, de l'origine sociale, mais aussi d'autres choses. Au fil du livre, on a le sentiment que l'école est vraiment un temple du savoir, où les adultes transmettent des connaissances, où les comportements, mais y compris les comportements des professeurs, sont assez normés, tant et si bien que les adultes sont fiables, alors que les découvertes et les déconvenues des petits arrangements qui sont ceux de la vie se produisent presque exclusivement dans la sphère familiale, alors peut-être parce qu'elle est par nature plus intime, mais cet apprentissage de la vie, version sombre ou cachée, ne se produit pas à l'école.
Non.
Où les choses sont transparentes et les règles claires.
Les règles sont très claires, très claires, et très rapidement perçues, mais alors avec une douceur presque. Enfin, le discours, je dis à un moment donné que le discours de Fort-la-Croix, à la fin du premier trimestre sixième, est aussi beau pour moi que le discours de Malraux au moment de la sortie de Jean-Boulard. J'exagère, naturellement, mais enfin, je cherche la tonalité. C'était pour moi aussi inattendu que du Chateaubriand, parce que cette forme d'évasion vers le futur. Alors, dans le cas du discours de Malraux, c'est vraiment une résurrection d'un passé glorieux, mais il y avait un type de temps qui m'était tout à fait étranger, un temps construit. Et d'ailleurs, je crois que les enseignants faisaient construire le temps. D'où en histoire, j'ai eu un professeur d'histoire prodigieux qui m'a vraiment incité à faire de l'histoire, même si j'hésitais à m'en aller à faire de la philo, parce que je savais que quand il racontait le règne d'Henri IV, si j'ose dire, je raconte l'histoire, il était capable de donner la date, le jour de l'assassinat d'Henri IV, parce qu'il avait pour moi un problème mnémotechnique très au point. Mais je savais qu'il aurait été capable d'écrire, il a écrit une biographie d'Henri IV chez Fayard plus tard. Leur niveau de connaissance était un peu comme un accordéon, il était capable de le monter ou de le descendre, ou comme un violon, si vous voulez. Voilà. Et en somme, il formait un orchestre. Alors les conseils de classe, certainement, étaient très 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 longs, parce que moi, j'étais tombé dans la considération du professeur de travaux manuels, qui trouvait que j'étais habile de mes mains. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Bon, parce qu'il y avait un semestre, on faisait du fer, l'autre du bois. Et il me racontait un peu les conseils, pour m'encourager. Et c'est là qu'il me dit, à un moment donné, vous savez, on a du bien de vous, vous progressez, etc. Et je voyais que les conseils de classe étaient très, très longs.
Oui, c'est une image très différente de celle qu'on s'imaginait qui naît, parce que souvent, on entend que... on aime bien se dévaloriser en France aussi, hein. On est toujours dans l'auto, on a une relation un peu conflictuelle à l'image qu'on se fait de nous-mêmes, mais ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est de valoriser des pédagogies dites anglo-saxonnes, où les élèves sont sans cesse encouragés, alors que notre pédagogie française serait tout le temps punitive, rabaisserait les élèves, les humilierait, etc. C'est pas le sentiment qu'on a du tout. En lisant votre livre, ou plutôt on sent que le système peut être compris comme ça si on le décharne, mais il se trouve qu'il y a des êtres humains entre les deux et qui sont pleins de bienveillance.
Alors, ce que vous dites là, on peut l'interpréter. Moi, je n'ai pas eu d'écho auprès de mes camarades, j'ai tous perdu de vue, sauf un, de ce livre, mais c'était du coercitif consenti, si vous voulez, parce que par exemple. C'est à partir de la seconde que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de gens rebelles qui tardaient à remettre Édouard. Ça, c'était les traînards, parce que c'était beaucoup. Hein, donc là, j'ai voulu remettre la version grecque ou la version latine, la traduction, etc. Mais c'est parce qu'en fait, l'effort était rude, donc le souffle était un peu coupé. Hein. Mais avant, non. Par contre, je n'ai pas eu le temps de le raconter, mais les récréations étaient... Certaines récréations étaient très violentes parce qu'il y avait c'était une décharge d'énergie. Alors, je dis très gentiment qu'on joue à saut de bouton ou qu'on joue au bim, mais c'était un peu plus aussi, quelquefois. C'était et les surveillants généraux étaient très très présents et empêchaient tout débordement. Mais c'est des années prodigieuses parce que ce corps enseignant qui ensuite a été beaucoup vilipendé, etc. Je dis pas que c'était l'âge d'or hein, parce que c'était un âge qui a correspondu à une période attentiste. On ne savait pas très bien ce que deviendraient les élites, parce qu'on a fondé l'ENAC en 1947, si je ne m'abuse, donc c'était à l'aube d'une refonte du système des élites. Mais restait dans Malsu, Polytechnique, toujours, naturellement, Centrale, déjà un peu moins, etc. Mais par exemple, l'agro, c'était considéré comme une école supérieure, inférieure, aller à l'agro, etc. Mais il y avait cette volonté pointée vers la réussite totale. Et c'était pas non plus évident, c'est-à-dire que on vous élevait à un certain niveau. Alors on lisait énormément. On lisait énormément. Je vois mon petit-fils lit pas beaucoup. On leur donne 10 livres à lire pour une année. Il n'en lise aucun. Et mais on nous réservait. On nous a dit très longtemps, ne lisez pas le Grand Moule trop tôt. Il y avait une sorte de gradation de l'acquisition de la saveur, des couleurs, des sons à travers la littérature, qui m'a toujours donné envie d'écrire.
Peut-être que cet interdit qui pesait sur certaines œuvres incitait davantage à les lire, non ?
Alors, il y avait des interdits qui incitaient à les lire, mais quoi, que je ne trouvais pas, parce que mon père à la bibliothèque, mes traductions hiérarchisées. Par contre, je racontais parce que je le voulais, la fameuse scène du secret. Il y avait des curiosités, mais rien de malsain. Bon, comme je le dis, c'est assez intéressant, parce que la scène du secret, qui, en fait, qui, je le dis pour les auditeurs, c'est la découverte de la curiosité de l'autre. Dans un monde masculin où certains avaient des sœurs et d'autres pas, moi j'avais une petite sœur, donc c'était pas du tout le cas. Curiosité malsaine chez les uns, curiosité simplement je dirais évidente pour d'autres, et surtout curiosité entraînant une curiosité qui entraîne elle-même une autre curiosité, ça tourne mal, c'est-à-dire ça finit en queue de poisson, si j'ose dire. Mais les enseignants étaient parfaitement conscients. Et je raconte la scène où un de mes camarades essaye de m'entraîner à des comparaisons, à ce que j'appelle de la littérature comparée, qui n'avait pas aucun intérêt, que j'étais toujours le plus jeune, mais surtout je me disais que je perdrais le concours, là, pour le coup. Et le professeur dans l'escalier. Et je suis convaincu que Forêt faisait les escaliers, les couloirs, pendant les récréations. Il ne connaissait pas ça, un surveilleur général, qui aurait fait du bruit.
Et là aussi, avec énormément de délicatesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'humilier, de considérer que c'était sale ou quoi que ce soit.
Il n'a pas vraiment compris que le garçon en question essaie de m'attraper dans un piège à voyeur et qu'il dit simplement que c'est tout. Allez jouer. C'est pas bien. Et mon alter ego, qui était déjà un petit peu déplumé, se rhabille en hâte et va jouer le rouge au loup. Mais c'est formidable de ne pas avoir. Mis l'accent sur le méfait, le désagrément, le vice futur, etc.
Oui, mais ça fait écho à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment que l'ensemble du système et des membres qui le font fonctionner s'interdisent de rentrer dans la sphère de l'intime, mais en revanche, garantissent un espace commun qui soit neutre, bienveillant et propice à l'étude.
Tout à fait, c'est ça, oui, tout à fait.
Alors, autre sujet d'étonnement en parcourant le livre, c'est la place de la religion. On s'imagine, mais peut-être parce qu'on greffe sur ces années-là des choses qui datent plutôt d'avant-guerre, des luttes entre la laïque et la catho. On découvre qu'il y a des cours de catéchisme, que tout ça se passe en bonne intelligence, même si on sait que le proviseur est plutôt un laïc, mais l'abbé se trouve là très très bien, et en fait on se sent pas mal à l'aise, et on peut manifester même de l'intérêt pour les choses religieuses dans cette école.
Alors ce qui est très intéressant, c'est peut-être un cas, non pas à part, mais c'est un cas quand même, une situation qui peut être plus complexe ailleurs. L'abbé Gouillon, qui était fils d'un grand pharmacien de Bordeaux, et Henri Fauré, je crois pas qu'il fut bordelais, pourtant j'ai plus ça en tête, parce que bon, en tout cas, s'entendait merveilleusement bien parce que le rôle de chacun était cadré. Mais c'était Fauré qui cadrait l'abbé, hein. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire que je raconte la scène de Pâques où il négocie dur avec le proviseur pour la semaine sainte à la chapelle qui est détruite d'ailleurs maintenant. Parce que le proviseur lui impose de faire la messe à 7 heures du matin. Ça ne déborde jamais à l'intérieur des cours, sauf la régularité du catéchisme, qui était le mercredi après-midi, me semble-t-il, mais je n'arrive pas vraiment à retrouver. Je n'ai pas de notes sur cette période-là dans ma vie. Il était convenu que l'abbé ne venait au lycée que dans les moments où il était autorisé à faire le catéchisme. Sinon, on ne le voyait jamais. Et il recevait, pour les séances et préparation à la communion, etc., auxquelles j'ai participé, bien que je l'ai fait à Paris, chez lui, rue Paul-Louis Land. Donc, Fauré cadrait l'abbé Gouillon, qui était extrêmement subtil. C'est-à-dire que, d'abord, il était un homme affable, un doux, etc. Il n'était pas, c'est pas un grand militant, c'est pas non plus un grand mystique, il n'a jamais été un grand mystique, c'est un homme extrêmement exquis. Et il arrivait à tenir ses troupes, ses catéchistes, très très bien, mais il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre sur les questions de salle, les questions d'horaire, etc. C'était un des rares endroits où on pouvait arriver en retard. Alors qu'à l'égal, sinon c'était absolument impossible. C'était pas les meutes, on ne pouvait pas faire ça plusieurs fois de suite. Bon. Et moi, j'ai découvert le retard des élèves en arrivant au lycée Henri IV pour ma prépa, en philo, que c'était toléré. Tandis que, alors au lycée Monteur, arriver en retard, c'était pas possible. J'en rigole en y pensant d'ailleurs. Et alors, on nous enseignait la religion de l'époque, c'est-à-dire quand même une religion très, je dirais, très scolaire. Je ne peux pas dire ma religion.
Jusqu'à la communion, si j'ai bien compris.
Jusqu'à la communion.
Et ensuite, ça devient un petit peu plus...
Mais enfin, quand je le raconte, la communion ne m'a pas plongé dans un bain mystique, puisque je raconte qu'effectivement, l'abbé qui est à Paris, a fait préparer dans la semaine avant la communion, nous dit cette formule, pense à Ardor, c'est-à-dire adorer, remercier, etc. Et moi, naturellement, quand il a demandé, je demande le tableau d'honneur, puis je m'en veux d'avoir demandé le tableau d'honneur, parce qu'il y a une confusion entre le pratique, le sentimental, etc. Bon, c'est une scène qui fait beaucoup rire à la lecture, mais c'est vrai que c'est un peu cruel, parce que, si vous voulez, c'est un moment qui, pour certains, certainement, a été un très grand moment, pour moi, a été un moment sociétal. Je ne peux pas dire que ça m'est rapproché de la foi. C'est plus tard que je suis rapproché du catholicisme, y compris de devenir presque supposément papiste, ce qui est faux, mais en tout cas que je suis ancré dans la
religion. Oui, on peut être spécialiste de la papauté sans être papiste. Reprécisons les choses.
On peut être ultramontain à Paris, ultramontain à Paris, gallican à Rome. Ce que je crois tout à fait. Il faut défendre les libertés religieuses à Rome et la religion romaine à Paris.
Enfin, c'est peut-être une posture qui vous vient de cette position quand même, d'élève quand même plutôt d'une famille catholique au sein de l'école laïque. Et d'ailleurs, vous développez ce concept de laïque de la catho.
Alors, catho de la laïque, c'est un mot qui vient de Paul Vigneault, qui était un grand philosophe médiéviste spécialiste de Dan Scott, qui n'est pas quelqu'un de très abordable, mais qui avait inventé ça en fondant le SGEN, Syndicat Général de l'Éducation Nationale. C'était un syndicat qui était un syndicat laïque et catholique, même chrétien, mais d'abord laïque. Et d'ailleurs, ce qui vous conduit naturellement, moi j'ai toujours été républicain, je n'ai jamais posé la question de savoir ce qu'il fallait faire quand on va fonder un régime plus autoritaire à couleur monarchiste ou autre chose. Non, parce qu'on vous enseignait la République avec la laïcité et la religion. Et ça très jeune, très jeune, très jeune. Euphorie contribuait. Parce que le fait, il y a un parallèle entre la première communion et le tableau d'honneur. Ça va faire surgir vos auditeurs, mais c'est un peu pareil, c'est la même poursuite, c'est-à-dire avoir une formation qui vous permette d'avoir ensuite le libre arbitre.
Exactement, on sent que dans un cas comme dans l'autre, on pose les premières pierres pour progresser, soit dans le chemin de la connaissance, soit dans celui de la foi.
Alors c'est plus libre dans le domaine de la foi, parce que dans le domaine de la connaissance, on vous demande quand même de rentrer à Polytechnique, si j'ose dire, mais dans le domaine de la foi, on ne vous demande pas d'être cardinal. Quoique, j'ai certains de mes jeunes camarades qui sont devenus évêques ou prélats, ou même abbés.
Alors, tout cela est bien beau, et on voit que cette volonté de faire progresser peut prendre la forme de prédictions autoréalisatrices, parce que quand on croit dans les élèves, finalement, ils croient en eux-mêmes, et un cercle vertueux se met en place. Et disons que ce système-là, même s'il ne gomme pas le rôle de l'origine sociale, fait quand même mentir les thèses de Bourdieu, parce que quand on y croit, que le système entier y croit, eh bien, on progresse. Oui. Et certains s'en tirent et ont des carrières qui le démontrent. Toutefois, il ne faudrait pas, vous ne gommez pas non plus la pression que ça occasionne sur les épaules de ces jeunes enfants, et y compris de vous-même. Je pense à un moment que moi, j'ai appelé, parce que je prends des notes dans la marge, la crise. Et la crise se produit de façon extrêmement révélatrice, je trouve, à un moment où, justement, vous êtes déclaré premier. Vous avez remporté un concours qui est de déclamation, je crois.
Oui.
Et c'est à ce moment-là que, du coup, libéré, vous dites à vos parents ce que vous ressentez comme enfant face à cette exigence permanente. Est-ce que vous pouvez évoquer ce moment clé ?
C'est le fenêtre bouchon de champagne. C'est-à-dire que, à force d'engranger, si je veux dire, ou de subir ce que je dis, c'est-à-dire quand j'avais 12, ça allait 13, quand j'avais 13, ça allait 14, je me souviens surtout du 15 pour lequel il fallait 16, et j'encaissais. Et le jour où je suis premier, mes parents sont très satisfaits, et du coup, leur satisfaction, de certaine façon, me désespère parce que je mesure l'étendue de ce qu'ils me demandent. Et donc, je leur vide mon sac sur l'escalier en leur disant que je suis furieux contre eux. Et c'est là que je reconnais que pour mes parents, c'est très dur parce que mon père l'a cité souvent. Il a reçu, si je veux dire, en retour comme un boomerang. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Parce que la phrase de Paul de Carotte dans Jules Renard a été citée par mon père comme un défi. Et je lui renvoie ça comme un retour au tennis, c'est-à-dire que c'est trop pour moi, parce que je suis étonné qu'étant premier, ils trouvent que c'est bien. C'est-à-dire, je me demande pourquoi ils ne me disent pas c'est pas assez.
Je dis. Oui, donc, ce qu'on ressent, c'est que ça n'a pas de fin.
On rentre dans l'univers de la dérision. Alors, du coup, aujourd'hui, on dirait qu'il pète un câble, mais du coup...
T'as un petit peu le câble.
Je suis hors de moi parce que, justement, le bouchon de champagne saute et je ne comprends pas pourquoi, cette fois-ci, ils sont contents. Voilà. Parce que j'ai derrière moi toutes les rancœurs du fait que mon père n'était jamais content. Voilà. Et que je dis voilà, comme on dit trop maintenant. Mais c'est une réaction à contre-temps. Alors j'avais heureusement pour moi une mère qui était une grande conciliatrice et qui adoucissait les angles, mais elle me lâche en seconde. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les femmes ont toujours beaucoup d'intuition, les mères éducatrices, donc elle me lâche en seconde, c'est-à-dire elle me laisse à mon père. Et du coup, je perds mon tampon, si vous voulez. Donc, parce que ça devient trop compliqué pour elle.
C'est un peu la division d'autrefois, non ? Les mamans s'occupaient des enfants quand ils étaient en plus jeune âge, et ensuite, post-adolescence, c'était au père de les porter vers la vraie vie.
Mais là, parce qu'il y a à la fois la croissance, l'adolescence, les humeurs, les résultats, le travail, etc. Donc elle me lâche, parce qu'elle se rend compte qu'elle ne va pas toujours me protéger. Parce qu'elle-même devient exigeante pour moi. C'est-à-dire, je dis que puisque je suis arrivé là, il faut que je persévère. Donc,
Oui, vous êtes loin d'être protégé. Et si je peux donner l'issue de cette crise, vous formez quand même le projet, et vous l'annoncez à vos parents, de partir dans les îles avec Justin Feder, qui lui n'en peut plus.
Ça, c'est du classique, mais c'est vrai. J'ai hésité à le dire, parce que c'est du grand classique. C'est du grand classique dans toutes les... De même qu'à un moment donné, je n'ai pas cité ça, on croit que ses parents sont pas ses parents. Il paraît que c'est assez commun. Enfin, bon.
Ben oui, ben il faut parler des... Oui, c'est classique, mais justement, c'est probablement générationnel, parce que je crois qu'aujourd'hui, d'être quand même plus rare que des enfants craignent d'annoncer autant que ça a été le cas pour vous-même et vos camarades, des notes moyennes. Je ne parle pas de mauvaises notes, des notes moyennes.
Non, il faut bien voir que à l'époque, Bordeaux était à 7h30 de Paris. Hein. Autant de Montesquieu, Paris, Bordeaux, c'était 6 jours. Là, c'est encore 7h30, quand on pense que c'est 2h. Bon. D'autre part, la jeunesse voyage. Moi, mes petits-enfants ont voyagé très tôt. J'ai des petits-enfants qui connaissent Bogota, etc., parce qu'ils voyagent avec leurs parents. Moi, mes parents voyageaient très, très peu. Donc, je connaissais surtout Paris, le bassin d'Arcachon et un peu la Bretagne. Bon. Et puis, le Maine-et-Loire, Chemillé, où j'ai passé une partie de la guerre. Mais je dois dire que mon univers territorial était très vaste, etc. Je rêvais sur un livre de géographie. Bon. Et la Guadeloupe, c'était alors un vrai rêve, parce que c'est le rêve de mes ancêtres. Bon. Du coup, quand Justin me propose ça, je marche. Parce qu'il y a connivence. Et donc, comme il se trouve que ma mère a des ancêtres là, puisque ma mère est née à Sainte-Rose, en Guadeloupe, et que mes grands-parents maternels étaient établis aux Antilles depuis le XVIIe siècle, je fonce à l'idée que je vais partir. Et tu sais pas, je lui demande l'adresse de l'oncle Paul.
Oui, et puis j'imagine que c'est une fuite vers une sorte d'Éden où la vie est plus douce, les exigences moindres.
Ah, ben le problème, c'est que j'avais. Il y a quand même. Ma famille n'était pas du tout sèche du cœur et de la culture, parce qu'il y avait ce mythe de ma grand-mère qui, en 1917, avait franchi l'Atlantique, alors à l'époque déjà des premiers sous-marins, avec ses deux filles et ce qu'on appelle une domesticité très nombreuse, et qui est rentrée à Paris pour faire du théâtre en 17, on se demande pourquoi, qui a effectivement fait du théâtre, qui a figuré dans Madame sans gêne, qui n'a jamais fait carrière, mais qui a allègrement mangé le pain de son bien, et qui, en 1940, était, comme on dit, sur la paille. Mais enfin bon, elle a mordu dans la vie à pleines dents. Mais il y avait ce mythe de la jeune fille divorcée, d'ailleurs, à l'époque, qui a du bien, même ses belles fortunes aux Antilles, et qui le gaspille à vouloir faire du théâtre, à jouer du piano merveilleusement bien, enfin, à mes yeux, et qui fait sa vie, voilà. C'est un grand mythe, ça aussi.
Oui, mais tous les détails que vous donnez sur le caractère artistique, éventuellement fantasque de votre famille, vient renforcer cette idée que même dans une famille tournée vers les arts, le père qui rêve d'être peintre, qui peint lui-même, qui finira par réussir, effectivement, les tantes qui jouent du piano, le théâtre, la littérature très présente, aujourd'hui, on dirait, c'est une famille artiste bohème, dans laquelle une pédagogie à la Montessori ou à la Steiner serait volontiers bien accueillie. Et non, dans les années 50, dans votre famille, si artiste soit-elle, on se coule dans ce moule républicain, méritocratique, extrêmement cadré.
Oui, absolument.
Donc le contraste est d'autant plus fort.
Ah oui, mais ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais c'est assez étonnant parce que mon père est très lucide. C'est-à-dire que lui, là, à cette époque-là, il était entre deux eaux, si je veux dire, bon, il était entre ce qu'il n'était plus et ce qu'il espérait être. Il débutait dans la finance, ça c'est bien d'ailleurs, enfin, c'était pas le Pérou, si je veux dire, pour employer des expressions familières. Mais, et lui n'ayant pas réussi à avoir une étiquette, ou à s'être donné une étiquette, veut que j'ai une étiquette républicaine. Ça, c'est pour des raisons personnelles et qui sont le fait. Mon père, alors ça, c'est aussi intéressant, c'est le tabou dans les familles. Le tabou politique était immense chez moi. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais pu lucider, puisque quand mon père a déménagé, une partie de la correspondance qu'il avait, soi-disant, parce que en tant qu'historien, je me méfie beaucoup des soi-disant archives, bon, avec Léon Blum et certains délégués syndicaux socialistes, a disparu. Je dis soi-disant, bon, parce qu'on peut se créer a posteriori toute une familiarité qu'on a rêvé, qu'on n'a pas eue. Bon. Mais il y avait beaucoup de tabous sur les positions politiques. C'est très intéressant que mon père confondait les deux Adrien Marquet. Le maire, disons, douteux de Bordeaux et le peintre. Et mon père préférait le peintre.
C'est le peintre de marine.
Voilà. Et c'est, j'ai failli faire un développement sur la symbolique du contraste. Mon père s'intéressait pas du tout à la vie politique bordelaise. Bon. Mais par contre, il s'intéressait à Adrien Marquet, qui était lui-même bordelais. C'est, pour moi, c'est, maintenant, comme on dirait, ça porte sens, je dirais plutôt, c'était fortement un choix délibéré de porter le sens de la vie artistique plus fort que le sens de la vie politique. Alors je ne dis pas que c'était conscient, mais c'était un hasard assez symbolique.
Un peu le sentiment aussi, au fil de ces pas où se mêlent l'instruction et l'éducation, l'école et la famille, que la culture baignait la société tout entière.
Une certaine société, parce que, enfin différemment, parce que je suis retourné à Bordeaux, mes parents sont enterrés d'ailleurs plusieurs reprises, bon, puisque je fais partie du prix Montaigne aussi, qui se déroule à Bordeaux. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, à Bordeaux, les élites bénéficiaient d'un type de culture qui était provinciale. Je prends l'exemple des Galas Carcenti. On voyait les pièces de théâtre parisiennes voyager. Mais c'était des acteurs de Paris qui venaient. Ça ne se fait plus, ça, maintenant. Pourquoi le relais, c'est la télévision? Bon. Il y avait un orchestre bordelais très, très connu. Il y a eu, il y a eu Roberto Mazzi. C'était connu comme étant celui qui était le jeune prodige qui avait 18 ans, qui reste à Bordeaux. L'opéra à chaque Noël, il y avait... un grand opéra ou une opérette, qui était plutôt une opérette, qui était donnée pendant les fêtes de Noël. C'est comme ça que j'ai vu, je ne vais pas raconter, c'est quand même pas tout raconter de toute façon, j'essaierai sur l'honneur, la danseuse aux étoiles, etc. Mais, au Festival de Pâques, Renaud Baron crée le Christophe Colomb de Claudel. Alors, il faut bien voir qu'il y avait à la fois une décentralisation et en même temps, si je veux dire, un resserrage. Et aujourd'hui, à cause de la télévision, à cause des échanges culturels faciles, à cause des distances, c'est-à-dire que les Bordelais ont encore un opéra, mais ils écoutent effectivement des grands chanteurs venir à Bordeaux, mais c'est pondéré d'une autre façon. Ça représente une culture européenne, une culture, je dirais. Ils ont des échantillons, ils ont la chance d'avoir, mais ce n'est pas vraiment une politique culturelle bordelaise. Alors Chaban Delmas a fait une politique culturelle très forte, mais on voyait des choses qui étaient quand même considérées comme étant de Paris. Plus maintenant, on considère que ça fait partie du
bain commun.
Du bain commun, que Joseph Kaufmann, qui est quand même le ténor le plus réputé actuellement, vient de chanter, a donné un récital de chant au théâtre de Bordeaux. Je crois pas que ce soit au théâtre d'ailleurs, c'est l'amphithéâtre, ou je sais pas. Ouais. Mais on considère ça normal, voilà. Mais on va. La haute société bordelaise va via l'Opéra Bastille.
Vous avez utilisé ce terme s'agissant de la culture, on trouvait ça normal. Peut-être faudrait-il souligner qu'avoir une école obligatoire, gratuite, c'est peut-être devenu normal, Mais c'est un trésor, c'est quelque chose de précieux qui ne tombe pas du ciel. Je dis ça parce qu'on sent beaucoup de gratitude dans votre livre à l'égard de vos maîtres, comme on disait autrefois, de vos professeurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas étendre cette gratitude à l'ensemble des professeurs, qui sont l'objet de beaucoup de récriminations, mais qui font une tâche toujours aussi utile et probablement toujours aussi, voire plus difficile.
Alors, les professeurs n'étaient pas les mêmes. La carrière du professeur n'était pas du tout la même. Parce que là, on avait parlé quand même de l'histoire démographique, du baby-boom, les deux baby-boom, parce qu'il y a eu le premier et le second. Bon. Et donc, autrefois, la carrière d'un professeur était très simple. Un agrégé était considéré comme étant déjà la crème de la crème. Bon. Et on passait à l'agrégation, c'était un sacrement. Par discipline. Bien. On était nommé dans un lycée qui n'est pas forcément aussi brillant que Bordeaux. Bon, on peut être nommé à Tulle, etc. Bon, je n'ai rien contre Tulle, mais enfin bon. Mais il y avait beaucoup de lycées, il n'y avait pas. Le collège n'existait pas comme opposition par rapport au lycée, il était dans le parallèle. Bon. Un agrégé, ensuite, passait par des travaux dirigés qui le contrôlaient, enfin qui l'organisaient à la faculté à côté de Bordeaux ou d'ailleurs. Et il déménageait, ou il déménageait pas. Mais sa carrière était de monter lentement vers l'enseignement supérieur. Roland Mounier, l'historien du XVIIe, surtout du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, a très bien décrit la carrière cylindrée des universitaires de l'époque. Franmin est devenu professeur d'enseignement supérieur. Bon, Fort-Lacroix n'a pas voulu, ni Matignon non plus, mais d'autres sont devenus professeurs. Robert Boutruche, que je présente comme étant dans l'oral où je manque sur le héros Levina, avait été professeur à Bordeaux, au lycée de Bordeaux. Il a fini à la Sorbonne. Finir à la Sorbonne était le Graal des professeurs de toute la France. Bon, beaucoup étaient alors, ils étaient préalablement dans des grandes universités comme Bordeaux, dans des grandes villes comme Bordeaux, comme Lille, même Aix-Marseille. Duby était professeur au lycée d'Aix-Marseille. Il finit à l'Académie française. Ça n'existe plus, ça. Parce que, en tout cas, ça existe toujours, mais c'est des happy few. Ce sont des gens qui font carrière parce qu'ils ont inventé un concept, parce qu'ils ont plus de talent, parce que leur publication, notamment. Ne pas avoir une publication, je ne dirais pas mondialement, mais nationalement reconnue, ne pas être dans un créneau porteur, c'est fatal à qui enseigne simplement l'histoire et la géographie. Donc, ce qui était simple, c'est que les choses élémentaires qu'on nous enseignait en histoire et géographie contenaient des choses beaucoup plus savantes. C'est pour qui sont ensuite développés. C'est pour ça que j'écris à un moment donné que, je ne sais plus lequel de mes professeurs, c'est aussi l'équivalent de ce que devient quelqu'un comme le byzantinologue, que Paul Lemaire, là, qui est un grand byzantinologue. Mais quand Paul Lemaire nous parlait de Théodora ou de Justinien, il nous parlait exactement comme Froment nous parlait d'Henri IV, mais avec un langage appuyé sur un autre bagage. Si vous voulez, la même scène dans un autre décor, ou peinte par un autre peintre. Bon, comme si vous voulez, déjeuner sur l'herbe de Renoir. Bon. Et ils avaient les mêmes bases. Simplement, le développement de leur carrière ensuite se faisait par un épanouissement qui leur était propre. Bon. Et qui tenait à leur goût de la recherche, à leur lecture, à leur croisement, à la pratique des langues, etc. Bon, ce corps était homogène, il est hétérogène maintenant. La multiplication des universités, l'appel à des gens qui n'étaient pas faits du tout pour l'enseignement supérieur, qui l'ont fait pour se dévouer au début, qui maintenant ont créé des générations qui ont l'appétence d'entrer directement dans le supérieur, de jamais faire de secondaire, a tout bouleversé. Il faut bien voir que mes professeurs de... Je vous parle du Boutou, c'est un exemple. Ivre Noir, mais... je sais pas, René Raymond n'a pas fait beaucoup de secondaire, mais enfin, on pouvait multiplier. Je parlais de Duby, le Goff aussi, ont enseigné dans des lycées. Et maintenant, c'est dans un lycée, c'est considéré comme étant la mort du petit cheval. C'est-à-dire l'enterrement de première classe avec Pompon Harnais et Clochette. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller dans les lycées, même à mon époque, même moi. Je n'ai pas fait une heure de secondaire. Pas une heure, pourquoi? Parce qu'on cherchait des jeunes assistants en 1968, après 68, pour peupler les universités nouvelles. Je suis rentré à l'université de Nanterre de plein fouet, d'un pas égal que celui où j'avais passé l'agrégation, fait le tour du monde, parce que j'avais une année supplémentaire à la Redoute qui n'existe plus, qui a parfait mon éducation. C'est-à-dire, je sors de l'agrégation, je pars aux États-Unis, je fais le tour du monde, je rentre, je fais mon service militaire et je me suis nommé directement à Nanterre. Là, le rythme normal était coupé. Alors je suis bénéficiaire, mais je reconnais que je ne suis pas fait secondaire.
Il n'en reste pas moins, monsieur, qu'en lisant votre ouvrage, ça pourrait déclencher des carrières.
Je ne sais pas.
Même dans les collèges et les lycées.
Oui, vous savez, il y a un facteur dans ce qu'on appelle les carrières. Les Italiens, qui est un pays qui pour ceux, un peu pour ce qu'on paye, parce que j'ai beaucoup vécu, j'aimais beaucoup. J'ai fait carrière dans l'enseignement, bon. Mais pas comme touriste. Mais les Italiens ont un mot, ils disent « fare una carriera », mais ça ne veut pas dire faire une carrière, ça veut dire suivre un train qui est un train d'ascension, c'est-à-dire que entrer dans la carrière, vous savez comme il est, suivre de l'œil un char, suivant dans la carrière, dit Fedre en pensant à Hippolyte, c'est un peu ça, c'est-à-dire une aire très vaste dans laquelle on peut déployer ses chevaux, c'est ça, voilà. Et moi, j'ai eu la chance que j'ai eu beaucoup de chevaux, aussi le chiffre 5, qui m'a toujours porté bonheur, très curieusement, puisque à chaque fois, j'ai passé un concours où j'occupe le fauteuil 5, où ça se mêle les politiques, donc en histoire et géographie. C'est un hasard, mais le chiffre 5 m'a poursuivi pendant très très longtemps.
Mais
j'en ai plus besoin maintenant.
Ça aide de croire à sa bonne étoile, c'est très important. Mais il faut aussi, comme vous le dites souvent comme fil rouge de ce livre, croire aussi au mérite, au travail, à la force des efforts. Et c'est ce que l'on sent principalement dans le livre. Et c'est pourquoi j'incite nos auditeurs, les professeurs, mais aussi les élèves, les étudiants, à croire dans le savoir, à se plonger dans le savoir, à le cultiver. Et une des méthodes, ça peut être à très brève échéance de se procurer votre livre, Le tableau d'honneur par Philippe Le Villain. C'est un récit donc aux éditions Sud-Ouest. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de votre témoignage. Peut-être voulez-vous ajouter une dernière chose, un mot d'encouragement à ses élèves et à ses professeurs.
Non, je n'ai pas d'encouragement à apporter, ça va de soi, mais je remercie surtout de m'avoir invité et de m'avoir fait m'exprimer très librement, tel que je fais, sans langage forcément académique, ce dont je prie mes auditeurs de s'excuser, mais je dirais avec la fougue de quelqu'un qui, avec vous, revit des années-lumière, voilà. Car ce sont des années-lumière pour moi.
Merci encore.
Merci.
À une prochaine fois. Thank you.